Voici le studieux Sieur de Terrien.
Oh, que oui, le Sieur de Terrien, mesdames, messieurs. Comment vas-tu, mon Sieur?
Ça va super bien, vous autres.
Oui. Ça va bien, François. Et ta chronique de ce matin pourrait pas être plus en phase avec le contexte, avec l'écosystème dans lequel on est depuis quand même un petit bout de temps. Là,
une semaine, un peu plus.
Ouais, c'est
ben, une semaine, non, c'est une semaine pile. Ça commençait samedi soir de la semaine dernière.
Ah ben oui, t'as raison. Dans le fond, la semaine dernière, c'était-tu vendredi soir ou samedi soir?
Samedi soir.
Donc, ça va faire une semaine à 8 heures à soir qu'il y a un curfew.
En fait, ça a fait une semaine hier soir.
À 8 heures.
À 8 heures.
Quel jour qu'on est aujourd'hui?
Dimanche. On est dimanche.
Ah oui, c'est vrai. On est
demain,
pas samedi,
tu dors.
Hein? Ah, je pensais qu'on était... ça va bien, hein? Donc, bref, tu vas nous parler des émeutes de 1918. Puis ça a vraiment super rapport avec le curfew.
Oui, en fait, c'est que ce qu'on disait, on en a parlé ad nauseam, là, que le Québec vit un couvre-feu généralisé pour la première fois de son histoire, mais il y a quand même eu des couvre-feux localisés qui ont eu cours quelquefois à travers les années.
Huntington?
Oui.
En 2004,
le maire Gendron.
Ben oui.
Oui, ça n'avait pas duré longtemps, non. Mais quand même, lui, il en avait fait un. Et à Québec, il y en a eu un couvre-feu après les émeutes de la Semaine Sainte au printemps 1918. C'était pendant la Première Guerre mondiale et c'était la crise de la conscription. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Bon, ben, en 1918, ça fait 4 ans que la Première Guerre mondiale fait rage et pas mal tous les pays impliqués commencent à manquer de soldats. Le Canada est encore sous la tutelle de la Grande-Bretagne. Il est entré en guerre, il n'y avait pas le choix. À partir du moment où la Grande-Bretagne déclarait la guerre à l'Allemagne ou à tout autre pays, le Canada, à cette époque-là, automatiquement était entraîné dans cette guerre. Et la Grande-Bretagne, là, on est en 1916-1917, puis ils font de la pression sur le Canada en disant « Hey, ça prend plus de soldats, là. On en manque, là. Fournissez-en. » Puis les volontaires ne sont plus assez nombreux pour remplacer ceux qui tombent au combat, parce que ça fonctionnait comme ça. C'était des volontaires qui s'enrôlaient, puis qu'on envoyait au front. Mais là, au fur et à mesure qu'on perdait des soldats, mais là, les volontaires, ils fournissaient plus pour remplacer ceux qui mouraient ou qui étaient blessés et inaptes au combat. Alors, le premier ministre de l'époque, Robert Borden, Monsieur 100$, c'est lui qu'on retrouve sur les 100$.
Ah oui.
Alors, lui, il est premier ministre, il veut imposer la conscription, mais la mesure est fortement impopulaire au Québec. Alors, donc, il déclenche des élections dans l'espoir d'obtenir une plus grande majorité pour avoir les coups des franges puis dire, bon, on peut imposer la conscription. Ça fonctionne, mais à moitié, parce qu'il y a sa majorité, mais son parti, il est conservateur, lui, il est pratiquement balayé au Québec. Il y a pas beaucoup de députés. Alors, M. Borden adopte la conscription en juillet 1917. C'est mal accueilli ici. Les raisons sont nombreuses. Les francophones considèrent que c'est une guerre qui concerne les intérêts britanniques, mais pas vraiment ceux du Canada. Les francophones rechignent à l'idée de servir sous des officiers unilingues anglais. Il y a quand même un bataillon francophone qui existe, le Royal 22e Régiment, sauf que c'est une unité combattante. Et contrairement à certains régiments anglophones où tu pouvais être à l'arrière, si tu t'enroulais dans le 22e, c'est clair que tu allais au combat. Alors, c'est pas tous les Québécois qui avaient le goût vraiment de faire ça. Puis aussi, il y a le contexte historique, là, l'adoption quelques années auparavant du règlement 17 en Ontario qui restreint l'usage du français dans les écoles, entre autres, irrite les francophones qui comprennent pas trop pourquoi ils iraient se battre pour des gens qui les méprisent, dans le fond. Alors, pour toutes ces raisons-là et bien d'autres, la conscription n'est pas populaire. Alors donc, on arrive dans la Semaine Sainte de 1918, fin mars, début avril. Au Québec, là, depuis quelques mois, il y a plusieurs manifestations contre la conscription qui ont lieu dans les principales villes de la province. Il y en a eu un peu partout, Québec, Montréal, Sherbrooke, etc. Mais c'est à Québec, en fin mars, début avril 1918, qu'elles seront les plus importantes. La conscription touchait tous les hommes célibataires de 20 à 35 ans. Alors, mais il pouvait avoir des exemptions. Mais en principe, t'étais célibataire en 1918, t'avais entre 20 et 35 ans, t'étais admissible à la conscription. Viens-t'en, mon homme, on s'en va faire la guerre contre les méchants. Et il y avait des policiers fédéraux qu'on appelait les spotters, qui tentaient de débusquer les gens entre 20 et 35 ans qui essayaient de se cacher. Parce qu'il y en avait, beaucoup, là, qui se cachaient soit dans les bois ou qui se fondaient dans la masse des villes. Il y en a qui voulaient vraiment pas y aller, là. Et, puis dans ces spotters-là, il y en a qui faisaient preuve de zèle et ça mettait en rogne la population. Puis c'est ça qui a mis le feu aux poudres à Québec. Parce que ça commence le jeudi saint, on est le 28 mars, l'arrestation d'un jeune homme qui s'appelle Joseph Mercier dans le quartier Saint-Roch va déclencher l'émeute de la Semaine Sainte, ou les émeutes, parce que ça s'est déroulé sur plusieurs jours. Il est arrêté dans un salon de quilles de la rue Saint-Joseph le 28 mars en soirée. Il y a des papiers l'exemptant de l'enrôlement, mais quand il est allé jouer aux quilles avec ses chums, il les avait pas sur lui.
Hey boy, hey, c'est sévère pour vrai. Ouais,
alors là, les policiers disent, non, là, t'as bien un beau mentir qui vient de loin, tu t'en viens au poste avec nous autres. Mais là, les gens qui ont été témoins de ça, là, ça chiale, ils commencent à avoir un attroupement, ça fonctionne pas, les gens sont en beau fusil contre la police. Puis là, il y a à peu près 3000 personnes qui encerclent le poste de police à un moment donné dans la soirée.
Wow.
3000 personnes, puis la population de Québec en 1918, c'est 100 000 personnes.
Il y a du monde à 3% de la population.
C'est ça. Il y a du monde à la messe. Il y a pas mal de monde autour du poste de police qui est sur la rue Saint-François à l'époque. Et là, le père du jeune homme, lui, va le faire libérer peu de temps après parce qu'il va chercher les papiers et il les apporte aux policiers. Alors, il libère le Joseph Mercier en question. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont arrêté d'autres personnes.
Pendant la manifestation.
C'est pas clair. Est-ce que c'est pendant la manifestation ou dans le salon de quilles ou autour?
Okay.
Ils en ont trouvé d'autres. Alors, eux autres, ils les gardent. Puis là, la foule se calme pas. C'est le maire de l'époque, Henri-Edgar Lavigueur, qui va se rendre sur place puis qui va réussir à calmer le jeu puis à ce que tout rentre dans l'ordre. Mais ça ne fera qu'un temps. Le lendemain, 29 mars, vendredi saint, la population n'a pas décoléré. Encore 3000 personnes se rassemblent dans Saint-Roch.
C'est juste pour la proportion là, en termes de la population, 3000 personnes. Tu dis pour une population de 100 000, on a à peu près 500 000 aujourd'hui. Fait que c'est comme s'il y avait 15 000 personnes.
C'est 3% de la population de Québec qui est là. Là.
Hey, il y a du monde. Là. Du stock en mots t'as dit. Là. Mais imaginez 15 000 personnes autour du stade Victoria, du poste de police du parc Victoria. Là.
C'est du monde.
Il y a du monde longtemps. Mais vous allez voir que
c'est un bureau. Là, t'as moyen d'être nerveux. Là.
C'est de la petite bière à comparer à ce qui s'en vient. Parce que ces 3 000 personnes-là partent de Saint-Roch puis montent vers la Haute-Ville. Puis en passant, ils vont saccager les locaux de l'Événement et du Chronicle, deux journaux qui étaient favorables à la conscription à l'époque.
Et dont on a parlé, Chronicle.
Le Chronicle, on en a parlé, effectivement. Par la suite, ils vont se diriger vers l'auditorium. L'auditorium, maintenant, c'est le Capitole.
OK.
Puis c'est là où sont classés les dossiers des conscrits. Alors là, ils se payent la traite, ils rentrent là-dedans, les dossiers sont éparpillés au sol, le mobilier endommagé, bref, là, on se paye la traite, puis on met même le feu au bâtiment.
Hein, une émeute au Capitole, me semble, ça me sonne une cloche, moi, une émeute au Capitole. 1-2-1-2. Dis-tu quelque chose à quelqu'un, ça?
Ouais, y a
saccage
du jour,
au Capitole!
Il y a du jour, mais l'autre Capitole...
C'était pas le même.
C'était pas la même affaire, par exemple. Moi, c'est pas exactement la même affaire.
Pas tout à fait la même chose.
Non.
Alors, puis ils ont mis le feu, les pompiers arrivent pour éteindre les feux, il y en a qui ont percé les lances pour les empêcher de travailler. Bref, là, au pire de l'émeute, à ce moment-là, il y a 10 000 personnes. On estime à 10 000 personnes les gens qui sont rassemblés autour de l'auditorium maintenant Capitole.
Et ça, c'est Place-Jeuville bien plein au bouchon.
Ah, au bouchon, là. Oui, oui. Quand il y a un bout de temps au festival d'été, il y avait une salle là, à Place-Jeuville.
Ouais.
Je ne sais pas s'il y en a encore. Là, une scène, c'est ça. Imaginez-vous, là, 15 000 personnes là t'es cordé.
Et puis, en fait, même pour le comparatif, 15 000 personnes. C'est de mémoire ce qui rentre à la nouvelle scène du festival d'été à Place Georges V. Là. Mm. Ils ont déménagé puis le pigeonnier de bord. Là. Mais il semble que c'est ça, 15 000.
Ben, 15 000, c'est le cas.
La capacité. Là.
Oui, carrément. C'est un cas.
Vide ça dans Place Diouville. C'est beaucoup plus petit, Place Diouville. Et monsieur qui avait du monde là.
Ouais, fin, alors, c'était, ça brassait. Alors, finalement, là, l'armée est appelée en renfort pour établir l'ordre parce que le maire Lavigueur s'est rendu là. Il a réussi à convaincre les émeutiers de se disperser, mais disons que ça a tout pris. Là, à Ottawa, on commence à s'inquiéter sérieusement de la situation. Le premier ministre Borden craint que les événements de Québec s'étendent parce que, oui, l'opposition à la conscription est plus puissante ici qu'ailleurs. Mais il y a de la grogne un peu partout, puis on a peur que ça dégénère. Souvenez-vous, la Première Guerre mondiale, là, vers la fin, là, les populations des divers pays impliqués en avaient leur claque. En Russie, il y a eu la Révolution russe. En Allemagne, ça commence à brasser. Alors, on a peur que ça fasse tache d'huile et que ça affecte le moral des soldats, puis qu'au bout de la ligne, on perde la guerre. Là. Alors, évidemment, au Canada, c'était autre chose. Là. On n'était pas le... disons que le Canada ne jouait pas sur le premier trio de la Première Guerre mondiale, si on peut s'exprimer ainsi. Là. Mais quand même, lui, il a peur, Borden. Alors donc, il donne les pleins pouvoirs à l'armée pour rétablir la situation. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ce sont les militaires qui ont l'autorité sur les policiers municipaux. Il y a 700 militaires qui vont se déployer en ville. 2000 hommes supplémentaires en provenance du Canada anglais viennent en renfort.
Hey boy.
Alors là, ça commence à dégénérer tranquillement. Dans la soirée du 30, les manifestants se rassemblent, on est le samedi saint, les manifestants se rassemblent dans les quartiers Saint-Sauveur et Saint-Roch et convergent vers le manège militaire. là où sont détenus des gens qui tentent de se sauver de la conscription. Alors, encore une fois, là, ça barde. À un moment donné, l'acte d'émeute est lu à la foule pour l'inviter à se disperser. Puis, selon les règlements, là, une fois que l'acte est lu, les forces de l'ordre peuvent ouvrir le feu.
Rentrer dans le top.
C'est ça. Il se passera rien ce soir-là. Les armes vont rester silencieuses, mais la cavalerie va charger les manifestants qui, eux, répliquent en lançant toutes sortes de projectiles. On est à la fin de l'hiver, entre autres. Fait qu'il y a des blocs de glace un peu partout où ça revole. Envoyez donc, là. Ça brasse, là, vraiment. Alors, le 31 mars, c'est la journée de Pâques. Le début de la journée est tranquille. Fête religieuse oblige. Mais la population est inquiète et outrée de voir l'armée débarquer en force. Puis même le maire de l'époque, le maire de la Vigueur, lui, il aime pas ça, là. Il essaye de convaincre l'armée parce que le dirigeant des forces armées qui sont à Québec, c'est un Québécois qui s'appelle François Lessard. À l'époque, c'est le plus haut gradé canadien-français de l'armée canadienne. Là, le maire de la Vigueur essaye de jaser avec. « Hey, Frank, prends ça mollo, là, parce que ça va péter, là. On veut pas de mort ici, là. »
Tu sais, dans un conflit qui est éminemment identitaire, linguistique, français-anglais, tu sais, non seulement t'as l'armée, qui est éminemment canadienne-anglaise, puis 2000 hommes anglais aussi.
Ouais, c'est ça, là.
Fait que là, ça se chicane, mais puis ça s'insulte, ça se crie des affaires en français pas en anglais. C'est fait pour que ça pète, là. Ouais,
là, ça dépasse la conscription. La population veut que l'armée se retire. Le maire essaye de convaincre l'armée. Il n'y a rien qui fonctionne. Alors, le lundi de Pâques, là, c'est là que ça va dégénérer. Les autorités civiles implorent encore l'armée de faire preuve de retenue parce qu'il y a une autre manifestation. Le gros des manifestations, là, depuis le dimanche de Pâques, passe à Place Jacques-Cartier, là où est la bibliothèque Gabriel-Roy maintenant. Okay. Alors, les gens se rassemblent là, puis là, on les empêche de monter vers la Haute-Ville puis d'aller saccager à gauche puis à droite, mais ça barde là. Et le lundi de Pâques, encore une fois, il y a à peu près 3000 personnes qui se rassemblent en début de soirée à la Place Jacques-Cartier. Les militaires, eux, sont déterminés à mettre fin aux manifestations. D'ailleurs, les soldats ont l'ordre de disperser la foule à coups de baïonnette. Apparemment, quand on lit les rapports de l'époque, là, ça commence à dégénérer. Puis il y a une mitrailleuse qui est mise en batterie à l'angle des rues Bagotte, Saint-Vallier et Saint-Joseph.
Ah, c'est chez nous, ça.
Et elle va ouvrir le feu. Après une brève sommation lancée en anglais, il fait noir. Les manifestants ont éteint les réverbères là, pour essayer de se fondre dans la noirceur. Puis en plus, il y a un épais brouillard. Alors probablement que les servants de la mitrailleuse, là, ils entendent la foule, mais ils voient rien.
Ça tire à l'aveuglette.
Et voilà. Puis il y a 4 personnes qui sont tuées et 70 autres blessées. À partir du lendemain, l'armée patrouille les rues de Québec avec l'ordre de tirer à vue. Là, les gens peuvent plus sortir. Il y a le couvre-feu. Le 4 avril, la loi martiale est imposée à Québec. Alors, c'est à partir de là que vous, les gars, vous, les filles, vous tenez à carreau. Puis à tout à l'heure, vous rentrez chez vous. Vous sortez pas parce que nous autres, on tire. Cette fusillade-là qui a fait 4 morts, c'est 4 hommes du quartier Saint-Sauveur qui ont été tués. Il y a eu une enquête à l'époque. Puis il a été déterminé que ces 4 hommes-là participaient pas à la manifestation. C'était des quidam qui circulaient puis qui ont été à la mauvaise place au mauvais moment. Puis, il a été écrit, mais ça a pas paru dans le rapport à l'époque, que les balles utilisées étaient des balles explosives. Alors, ça veut dire qu'on tirait pour tuer, là, parce qu'une balle explosive, t'as pas besoin de viser le cœur pour faire des gros dommages.
Non.
T'as juste besoin d'atteindre la personne, puis ça sera pas le fun. En 1998, donc 80 ans après, ou 70 ans? 80 ans après les événements, il y a un monument commémoratif qui est installé là où s'est déroulée la fusillade mortelle, coin Bagotte, Saint-Joseph et Saint-Vallier, pour commémorer cet événement.
D'ailleurs, ils viennent de faire une place publique, je sais pas comment ils appellent ça, là, une place publique pas éphémère, là, mais ils ont mis de la dalle, là, puis ils ont rajouté des bancs de parc. Là. Je sais pas savoir l'air de quoi cet été, mais en tout cas, ils veulent faire une place conviviale, de quartier. Il y avait déjà, c'était un stationnement. Tantôt, okay, quand je te disais le stationnement de la ville pour les opérations de neigement, qui a 8 places, là, il y en avait à peu près 24 et ils sont rendus à 8 parce qu'ils ont fait une place dans le parking.
Parce qu'il est là, le monument.
Il est près de là, le monument, en face de la pizzeria.
En fait, c'est pas compliqué, là, pour ceux qui se demandent exactement qui ont de la misère à s'orienter. C'est ça. En fait, là, vous prenez
Pawn Shop.
Il n'y a pas un Salvatore dans ce coin-là aussi?
C'est ça, pizzeria.
C'est ça, la pizzeria, oui. C'est ça. Parce que si tu prends le boulevard Charest, là, tu t'en vas vers Québec, à un moment donné, ça tourne. Là. Il y a Saint-Vallier à votre gauche, là. Il y a une intersection. Là où il y a eu le gros accident, là, l'espèce
de
bâtisse.
Au coin du Val-Angelier.
C'est ça. Bon, ben, dans ce coin-là, si vous tournez à gauche sur Saint-Vallier, l'intersection Saint-Vallier-Bagotte-Saint-Joseph.
C'est la première lumière.
C'est ça. C'est à peu près à 200 pieds, 300 pieds de l'intersection Saint-Vallier.
Wow, gros max. Puis c'est drôle, là, ça remet les priorités en perspective d'écouter tes histoires, François. T'sais, on se dit, hey, coudonc, le couvre-feu, tu sais, c'est sévère à Montadie. Ben, au moins, ils nous tirent pas à vue quand on est dehors passé 8 heures. On peut donner un papier pour dire, je suis travailleur essentiel. On peut aller promener notre chien aussi. On se fait pas tirer avec des balles explosives. Voilà. Ah, tu vois quand on remet les choses en perspective.
Et voilà.
C'est à ça que ça sert de se raconter ces histoires-là.
Oui, mais de se souvenir de ces choses-là qu'on a pratiquement oubliées. Là, mais quand même, là, l'armée qui tire dans les rues à Québec... C'est quelque chose. Là,
quand on se compare, on se console.
Et voilà.
Exact. Faut pas oublier ce dicton-là.
Merci, mon cher sieur.
D'ailleurs, ben, c'était la dernière fois qu'il y avait eu un couvre-feu à Québec, si je ne me trompe pas. On avait parlé de la crise d'octobre, mais c'était
pas
un vrai couvre-feu.
Mais apparemment, il n'y a pas eu de couvre-feu pendant la crise d'octobre. Il y a eu des tests qui ont été effectués au début des années 40, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que là, on craignait le débarquement des troupes allemandes à ce moment-là. Puis on faisait des exercices, on appelait ça un blackout. On fermait toutes les lumières, les voitures ne pouvaient plus circuler. Mm. Mais c'était pas des tests qui duraient toute la nuit. Là. On faisait ça pendant une heure ou deux. Puis
mon père m'a raconté, parce que mon père était en vie durant la Deuxième Guerre mondiale, les voitures, on demandait, parce que les fentes des voitures étaient ronds et bombées. Mm-hmm. Okay? Et les gens peinturaient la moitié du haut en noir. Pour que ce soit moins visible du haut des airs.
Hey boy.
Oui, parce qu'on craignait les bombardements aériens. Ah oui. Je ne sais pas comment les Allemands auraient fait pour envoyer des bombardiers ici, là, à l'époque.
Mais il y avait moins de radars qu'aujourd'hui, probablement, ben, c'est ça, peut-être. Aussi. Mais parce qu'il y a eu des sous-marins allemands dans le fleuve, apparemment.
Mais puis au-delà de est-ce que ça marche ou ça marche, est-ce que ça fonctionnait pas, puis on voyait-tu vraiment les lumières des autos du haut des airs? Il y a le simple fait qu'on le faisait.
Oui.
Tu sais, il y a beaucoup d'anxiété, de gens qui disent que ça les rend anxieux, le couvre-feu, ces choses-là. Puis écoute, moi, je respecte ça au bout, parce que c'est un vrai fléau, l'anxiété, tu sais. Mais quand t'es rendu qu'à peinturer tes lumières de char en te disant, c'est parce que s'il y a un avion qui passe, je veux pas qu'il me voie, sinon il va me bombarder, là. Mm. C'est pas le même genre d'anxiété.
Non, non, non,
c'est pas le même genre de préoccupation, c'est juste ça.
Puis dites-vous que, tu sais, en 1941, en 42, en 43, là, ils savaient pas que la guerre finirait en 45, là.
Ah ben non, c'est ça.
Il n'y avait aucune idée combien de temps ça allait durer. Là. Nous autres, on est pas mal certains qu'à la fin de l'année 2021, là, on devrait être sortis de la pandémie. Là. Mais eux autres, ils savaient pas. Là. Il y en a sûrement qui s'imaginaient que c'était pour durer 10 ans, puis ils savaient pas du tout. Ça a quand même duré 6 ans, la Deuxième Guerre mondiale. Ouais,
ça a été long. Puis il y avait un rationnement alimentaire à cette époque-là, ici.
Oui, il y avait des tickets de rationnement, effectivement.
Ah ouais, ouais.
Mais j'ai cherché cette semaine, d'ailleurs, l'origine de l'expression « couvre-feu ».
Ah, vas-y donc.
Ça date du Moyen Âge.
Ça date parce qu'on éteignait le feu, et voilà.
Non, c'est parce qu'on couvrait le feu.
Ah, c'est ça!
C'est plus simple encore.
Une chance t'es là pour les précisions, Alex.
Bon, on va aller à la pause.
Ça date du Moyen Âge, à l'époque où le chauffage, c'était essentiellement des feux dans les cheminées. Mais ça venait avec des incendies. Et pour éviter des incendies, surtout la nuit, au moment où les gens sont couchés puis ils peuvent pas surveiller le feu puis être, tu sais, sonner l'alarme rapidement.
Ils faisaient comme toi, ils ont mis un poêle électrique dans leur foyer.
Voilà, oui. Mais au 13e siècle, on dit que les autorités ont demandé aux gens d'éteindre le feu pour la nuit, éteindre les bougies également pour éviter les feux et les conflagrations.
Ah ouais, OK, mais comment ils faisaient pour se chauffer la nuit?
C'était probablement la chaleur emmagasinée déjà dans la maison.
La thermopompe, je pensais que tu allais dire.
Ouais, c'est ça, ouais.
C'est pas ça. Ah, fait qu'il conservait la chaleur. Il essayait de garder le chaleur qu'il y avait eu jusqu'à 14
probablement
le soir.
Que les pierres de la cheminée restaient chaudes une bonne partie de la nuit. Puis probablement plus de couvertes puis de fourrure.
Puis le matin, il faisait frette.
Oui, probablement.
T'es là, tu parles à quelle époque?
13e siècle.
OK, c'est histoire au Moyen Âge, oui, c'est ça. D'après moi, il faisait.
Toi, t'étais là, Vez, tu t'en souvenais de cette époque-là?
Non seulement ça.
Vaguement.
Mais, non, mais attention, il était aussi quand même dans des. On était en France, tu disais?
Ils disent pas quel endroit exactement, mais
c'est le Moyen Âge, ce qui est l'équivalent de la France aujourd'hui.
Probablement.
Tu sais, il devait avoir des peuples scandinaves. Je sais pas si ça marchait eux autres aussi, les Vikings, là. Mais ils ont pas non plus le climat qu'on a ici, là.
Non. T'sais,
d'après moi, je suis pas sûr que les Premières Nations étaient très couvre-feu aussi. Là, t'sais. Mm-hmm. D'après moi, le feu en plein hiver, là, sur la côte nord, d'après moi, ça devait rouler.
T'avais pas le choix.
Ça devait rouler la nuit longue, ça, d'après moi.
D'ailleurs, puisqu'on est dans les incendies, la semaine prochaine, les grands incendies de Québec.
Oh, yes! Hey, ça, moi, j'aime assez ça qu'on est capable de se situer dans la ville avec tes histoires, François. Là. Comme là, le coin de rue à côté de chez
nous. Oui, allez-y, là, coin Bagotte, Saint-Vallier, Saint-Joseph, le monument y est là.
Ouais, ben quoi, je dis allez-y, mais.
Ben, si vous êtes pas loin, là.
C'est pas si impressionnant, mais.
Non, mais ça va vous donner une idée.
Ouais. Hey, merci, mon sieur de Terrien.
Le plaisir fut pour moi.
Vraiment très, très agréable. On va faire une courte pause. Au retour! Vous savez qu'il y a de la grosse division ce soir.
La TV.
Oui, c'est le grand retour de Star Academy. À 17h, je pense. À 19h, ce soir, Star Academy. Ça lui décrit sur ma feuille, sur son collet.
Ah. Ouais,
19h. 19h à TVA ce soir. Et on parle avec un des profs de Star Academy après la pause. Grégory Charles, qui devrait être avec nous. Oh. C'est dans quelques minutes.
Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Que Québec se lève.
Avec Paul-Raphaël Charon, Vez et Alexis Sanson. Que Québec se lève.
OFM 93. 93.